Avec l'aide et la participation de Madame Didier, professeure documentaliste, Madame Serrault, professeure d'histoire géo, et Madame Michel, professeure de français, les élèves de 3e A et 3e C du Collège Montaigne de Tours ont réalisé une série de podcasts sur la Première Guerre mondiale. Radio Campus est venu guider les élèves pour découvrir les différents contenus radiophoniques possibles. L'anachronisme est permis, on peut jouer avec les codes de la radio, jouer un rôle, imager et sonoriser un événement. Une seule consigne, la vérité historique doit être respectée. La série de contenus que vous allez écouter reprend donc le fil des événements qui ont conduit au premier grand conflit mondial de 1914. Attentat de Sarajevo, conditions de vie des soldats dans les tranchées, le travail des femmes, les mutineries de 1917, la révolution russe, le retour du front ou bien encore le traité de Versailles. Ces podcasts sont à retrouver sur notre site radiocampustours.com et sont à écouter tout de suite sur nos ondes.
Nous sommes en direct sur Radio Campus. Un attentat vient d'avoir lieu à Sarajevo, il y a une heure. Nous avons un envoyé spécial sur place pour interroger un témoin oculaire qui a assisté à cette scène stupéfiante.
Nous sommes actuellement en présence de Nicolas en Autriche-Hongrie à Sarajevo. Il est midi. Bonjour Nicolas, raconte-nous ce qui vient de se passer.
Bonjour Robin, j'étais sur le trottoir pour voir l'archiduc François Ferdinand et sa femme Sophie passer dans leur belle voiture décapotable. Et là, tout d'un coup, un jeune homme a surgi, a sorti un revolver et a tiré deux coups de feu sur ces derniers. Après l'attentat, tout le monde s'est mis à crier, à se bousculer. Le sang a giclé, c'était l'horreur.
Mais du coup, est-ce que l'archiduc est mort ?
Je ne sais pas.
Quelles conséquences cet attentat peut-il engendrer ?
Pour savoir les conséquences de cet... Attendez, on vient de me confirmer dans l'oreillette que François Ferdinand est mort le 28 juin 1914. Pour savoir les conséquences que cet acte peut engendrer, nous allons demander des renseignements à la journaliste spécialiste ici présente.
Effectivement, cet acte va être lourd de conséquences. On vient d'apprendre que le tireur est serbe. Comment l'Autriche-Hongrie va-t-elle réagir ? La situation est déjà extrêmement tendue dans les Balkans. Il va falloir attendre les prochaines heures pour savoir ce qui va réellement se passer.
Chers auditeurs, nous vous tiendrons au courant de la situation prochainement.
Bonjour, vous êtes sur la libre antenne de Radio Campus. Je suis Azélie et je vais animer cette antenne. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Maël, un poilu de la Première Guerre mondiale, qui va nous raconter les conditions de vie au front. Est-ce que vous m'entendez ?
Allô ? Oui, je vous entends.
Que pouvez-vous nous dire sur les conditions de vie au front ?
Oula, j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, le manque d'hygiène.
Que voulez-vous dire par manque d'hygiène ?
Déjà, nous n'avons pas de toilettes, aucun moyen de se raser, pas non plus de douche. Les odeurs étaient indescriptibles.
Quelles odeurs ?
Un mélange d'excréments, de transpiration et de mort, c'était horrible.
Ça devait vraiment être horrible à vivre. Merci d'avoir répondu à l'appel, au revoir. Maintenant, Jean-Paul, un second poilu de la Première Guerre mondiale, va rejoindre l'appel.
Bonjour, moi ce que je veux dire, c'est que la guerre était très violente car il y avait des obus. Qu'il y avait des armes très bruyantes, comme les obus, qui déchiquetaient les soldats qui passaient à côté. C'était aussi violent psychologiquement, les odeurs de mort, la gale, l'ennui, les rats, les poux, l'angoisse, c'était très dur à vivre. J'avais un ami, Michel, qui était malade. Un jour, il est monté sur la première tranchée et je ne l'ai jamais revu.
Mais mangez-vous à votre faim ?
Non, la nourriture se faisait très rare. Car les rats mangeaient absolument tout, nous avons donc fini par les manger.
Quelle tristesse dans ce témoignage. Merci à ces deux poilus d'avoir témoigné.
Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent. Nous allons passer au moment de la libre antenne. Nous allons prendre trois personnes au téléphone. Nous recevons Michel, qui nous vient directement de la Marne.
Bonsoir, je vous témoigne en tant que femme munitionnette à l'usine à Chalon, où nous fabriquons munitions et matériaux dans le but de ravitailler le front.
D'accord. Et quelles sont vos conditions de travail ?
Nos conditions de travail à l'usine sont extrêmement éprouvantes et difficiles. Entre le bruit des machines, le feu qu'elles produisent, Nous travaillons sans relâche jour et nuit, dans le même but, de ravitailler le front. Nous sommes épuisés de ces conditions.
Merci pour ce témoignage poignant. Nous allons passer à Françoise, qui, elle, vient du Calvados. Bonjour, c'est à vous de parler de votre témoignage.
Bonjour, en tant que femme dans les champs, nous avons dû remplacer nos maris, qui eux sont partis au pont. Le travail est difficile car les outils sont inadaptés pour nous.
C'est malheureux pour vous. Et quelles sont vos conditions de vie et de travail? Et ressentez-vous une inquiétude pour votre mari?
Nos conditions de vie au champ sont épouvantables. Et oui, je ressens de l'inquiétude, un manque, mon mari me manque. J'ai peur pour lui tous les jours et cela est très difficile de vivre avec. Pourvu qu'il rentre bientôt.
Et enfin, pour finir, nous avons au téléphone Marie, qui vient précisément à Verdun.
Bonjour, je travaille à l'infirmerie, à l'arrière du front, à Verdun. Il y a malheureusement beaucoup de travail, mais il y a une nouvelle technologie qui arrive, notamment la radiologie. Ça nous rend la tâche plus facile, car on peut voir où a mal le soldat, avec précision. Aussi, les hommes sont assez impressionnés par l'efficacité de notre travail.
Et merci pour vos témoignages qui nous permettent de réfléchir sur les conditions de travail et de vie des femmes. Nous espérons que tout ça n'est qu'éphémère. Les femmes, elles, montrent qu'elles peuvent remplacer les hommes dans les champs, les usines, au front et même dans la société. Merci de votre écoute et à bientôt pour d'autres Libres Antennes.
Nos conditions de vie au champ sont épouvantables.
Et dis-moi, Jamy, qu'est-ce qui se passe en Russie en 1917?
Calme-toi, Fred. Si tu veux plus de réponses, pourquoi ne pas aller sur place?
C'est parti. Marcel, en Russie. Nous sommes ici à Petrograd, en Russie, en février 1917. Oula, mais c'est bazar ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des soldats qui me foncent dessus. J'ai trouvé un ouvrier russe. Bonjour, Vladimir. Que se passe-t-il?
Bonjour. Nous sommes en 1917 en pleine guerre mondiale. Le froid, le désespoir et surtout la famine prennent un maître sur la Russie, sauf pour ce foutu tsar de Nicolas II qui mène sa vie tranquillement au front.
Mais comme tu vois, ça chauffe dehors et les femmes se rebellent. Fais attention, Fred, je sens le pire arriver.
Waouh, je suis accompagné de Karina, une femme révolutionnaire. Bonjour Karina.
Bonjour.
Pourquoi manifestez-vous?
J'en ai marre de cette monarchie absolue. Je veux le pain et la paix. Oh, regardez au loin, des soldats viennent nous aider. Oh là là, attention, ça commence à chauffer. Réfugions-nous dans le palais, vite.
Waouh. Eh oui, Jamy, c'est ce que je viens d'apprendre. Le tsar Nicolas II abdique, c'est la fin des Romanov. Un gouvernement provisoire est créé. Victoire.
Plus de monarchie absolue.
On espère tous prochainement la paix.
Et qu'ils ne nous trahissent pas.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le grand débat de la semaine sur Radio Campus. Aujourd'hui, nous accueillerons Paul.
Bonjour Patrick.
Mutant dans les tranchées et le colonel Richard.
Bonjour Patrick.
D'ailleurs, vous, colonel Richard, vous avez dirigé les hommes à Verdun?
Oui, exactement.
Nous allons débattre des mutineries en 1917. Paul, qu'est-ce qu'un mutant selon vous?
Un mutant est un poilu qui refuse de combattre pour ne pas mourir dans une guerre suicidaire.
Je pense que leurs idéaux sont stupides. Ils ne veulent même pas défendre leur patrie. Ils n'ont pas à contester les ordres.
Mais vous pouvez attendre que je pose des questions, s'il
c'est
vous plaît.
C'est n'importe quoi.
Quelles sont vos revendications, Paul?
Nous souhaitons avoir plus de repos à l'arrière, qu'on arrête de se lancer des assauts suicidaires. Que nous soyons en front ou à l'arrière, nous finirons morts.
C'est un devoir, une obligation pour chaque Français. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous serez condamné à mort. Donc mourrez valeureusement.
Comprenez-nous, les conditions de vie sont très compliquées, horribles à vivre. C'est pour cela que nous refusons d'aller au front pour combattre.
Paul, nous avez beaucoup entendu parler de la chanson de Craon. Pour quelle raison l'avez-vous écrite?
Lors de la Première Guerre mondiale, nous avons écrit cette chanson pour que les poilus se rendent compte et témoignent leur désespoir.
Je cite « De cette guerre infâme, c'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau car nous sommes tous condamnés, nous sommes des sacrifiés. Regardez vos paroles défaitistes, c'est à cause de vous que cette guerre est interminable. »
Ce n'est pas à cause de nous que cette guerre est interminable. Vous ne vous rendez pas compte de l'horreur qu'il y a eu au front, tout ce que nous avons dû traverser.
Vous ne savez pas la pression que c'est de diriger une armée, de trouver des stratégies pour contrer des ennemis. Et c'est normal qu'il y ait des pertes humaines. Si on veut gagner, il faut forcément des pertes.
Vous n'étiez pas présent lors de la guerre et vous nous considérez comme des pions, des joueurs ou des pièces.
Le but d'une guerre est de gagner, pas de nous faire plaisir.
Merci monsieur d'avoir participé à ce débat, même si vous n'êtes pas prêt de vous entendre. Je rends l'antenne.
Bonjour à tous, je suis la journaliste Mélissa de Radio Campus. Aujourd'hui, le 26 septembre 1921, je vais interroger Claude, Marie et Louise sur le retour du front. Bonjour à tous. Claude, pour vous, comment ça s'est passé quand vous êtes revenu chez vous ?
Depuis que je suis revenu du front, je ne peux plus travailler vu que je suis défigurée. J'ai le nez cassé, il me manque mon avant-bras droit, traumatisée par mes blessures et je fais des cauchemars la nuit. J'ai eu beaucoup de mal à exprimer ce que j'ai vécu auprès de ma famille. J'entendais des sifflements d'obus partout.
Louise, comment avez-vous vécu le retour de votre mari ?
Effectivement, depuis que Claude est rentré, même si ça fait 3 ans, il a encore beaucoup de mal à s'adapter à la vie civile. Je dois beaucoup m'occuper de lui, il ne dort presque pas la nuit, il ne supporte pas le moindre bruit qu'il peut entendre, même s'il entend de moins en moins bien. J'ai accueilli Marie chez moi pour qu'elle se sente moins seule, car son mari est décédé au combat.
Marie, comment vivez-vous la fin de la guerre ?
Quand la guerre s'est enfin finie, j'ai vu que mon mari n'est pas rentré. J'étais dévastée. Tous les jours, j'espérais des nouvelles, mais rien ne venait. On n'a même pas retrouvé son corps. J'étais pas loin de sombrer. Heureusement, mon amie Louise m'a gentiment accueillie chez elle. Je l'aide beaucoup à s'occuper de son mari et s'occuper de la maison.
À cause de cette guerre, la société européenne fut profondément marquée par cette violence et on construit partout en France des monuments aux morts pour rendre hommage aux 8 millions de morts et aux 19 millions de blessés. Merci pour vos touchants témoignages.
De rien, au revoir.
Post-scriptum, c'est la dernière fois que je vous importune avec mes chiffres terribles. Mais par comparaison avec le temps mis par les troupes alliées à descendre les Champs-Élysées lors du défilé de la victoire, environ 3 heures, je crois, j'ai calculé que, dans les mêmes conditions de vitesse de marche et de formation réglementaire, le défilé des pauvres morts de cette inexpiable folie n'aurait pas duré moins de 11 jours et 11 nuits. Pardonnez-moi cette précision accablante.
Salut à tous, c'est Yacine. Aujourd'hui, nous allons vous diffuser une archive exceptionnelle du témoignage de Clémenceau, qui est un des 4 dirigeants du traité de Versailles, et Johannes Bell, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement allemand. On se retrouve pour les derniers épisodes de la série de la Première Guerre mondiale, qui parlera du traité de Versailles. Et tout de suite, notre envoyé spécial qui se trouve sur les lieux pour interroger les dirigeants.
Oui, bonjour Yacine. Effectivement, on se retrouve 47 ans après l'humiliation de la France, à Versailles, le 28 juin 1919, pour le traité de Versailles. En compagnie de mes confrères étrangers, pour questionner Georges Clémenceau et Johannes Belt, pour leur demander leur avis sur le traité de Versailles. Bonjour, monsieur Clémenceau. Que pensez-vous du traité de Versailles ?
Mon avis sur le traité de Versailles est positif. Je soutiens ce qui est écrit dedans. Le peuple français mérite que l'Allemagne répare les dégâts causés par leurs actes. Après tant de combats et des millions de morts et de blessés, je trouve que le traité de Versailles est une bonne chose, même, et j'en suis désolé, ça ne réparera pas les millions de familles séparées. Tout ça à cause de l'Allemagne, seule responsable de la guerre.
Merci beaucoup, Monsieur Clémenceau, pour votre réponse. Oh, je vois Johan Belt sortir. Je vais l'interroger. Bonjour, Monsieur Belt. Quel est votre avis sur le traité de Versailles ?
Ja, guten Tag. Je trouve ça inadmissible, Monsieur Saint-Moré. Mon avis est contre, car à cause du traité, l'Allemagne va perdre injustement 15% de son territoire, 10% de sa population. L'armée est limitée à 100 000 hommes. L'Allemagne doit tout payer. Cela est injuste. Je considère que le traité de Versailles est un vrai diktat pour l'Allemagne. Je n'ai rien pu dire, j'ai été forcé de signer à contre-cœur.
Merci beaucoup, Monsieur Belt, pour votre témoignage. Nous en tiendrons compte. Nous retournons de suite dans le présent avec Yacine.
Ceci marque la fin de cette série. On se retrouve pour une prochaine fois.